Les podcasts du Collège de France, biologie.
Donc la dernière fois, on a été arrivé au rôle des heat shock protéines 90 en particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc juste pour faire un petit résumé du chapitre précédent, pour ceux qui étaient absents, soit physiquement, soit mentalement, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que les cycles répétés de fixation de HSP90 sur ce qu'on appelle les clientes de cette protéine, maintiennent ces protéines dans une structure qui est une structure active. Essentiellement d'ailleurs pour des protéines qui sont des protéines qui sont en fait relativement instables et naturellement instables et dont l'activité nécessite une interaction de faible affinité avec HSP90. D'ailleurs, HSP90 reconnaît dans les protéines non pas un motif fixe, mais une sorte de structure générale. Ce qui fait que même dans une famille de protéines, par exemple les SARC ou les récepteurs aux stéroïdes, tous les membres de la famille ne sont pas reconnus, régulés par une interaction de faible affinité avec HSP90. Ce qui veut dire que ces protéines clientes ont une fonction physiologique normale. Et le jour où on surexprime, on dénature les protéines et où du coup on fait passer HSP90 vers d'autres protéines qui ont été dénaturées par un choc thermique, par même un choc autre, un problème, disons, physiologique de la cellule, à ce moment-là, ces protéines cessent d'être protégées par HSP90, qui sont physiologiquement protégées par HSP90, cessent de l'être, et à ce moment-là acquiert des conformations qui sont des conformations non physiologiques. Ce qui entraîne évidemment des modifications morphologiques et physiologiques de l'organisme, pas uniquement au cours du développement, d'ailleurs dans sa physiologie adulte même. Hein. Donc on est arrivé là et j'étais en train de vous illustrer au moment où la cloche a sonné une expérience qui a été faite par deux auteurs, Suzanne Rutherford et Suzanne Lindquist, en 1998, et qui ont décrit en fait des mouches hétérozygotes pour HSP90. Alors, chaque fois que je vais vous parler de mouches, je vais passer de HSP90 à HSP83. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Hein. Donc, pour HSP90, ce qu'ils ont vu, les homozygotes, qui sont mutants pour les deux gènes HSP90, meurent. C'est pas viable, on peut pas vivre sans heat shock 90. Par contre, dans les hétérozygotes, ceux qui ont une mutation uniquement sur un gène, eh bien, on a une petite proportion, environ 1 à 3% de mouches, qui ont un phénotype visible. Et par exemple, alors ce phénotype peut affecter différents organes. Alors là, je vous ai dessiné le phénotype œil. Vous voyez que ça, c'est la mouche normale, enfin, la tête de mouche normale, presque normale. Et là, c'est dans l'hétérozygote HSP90 ou HSP83, ce que vous avez, c'est une mouche qui est déformée pour l'œil. Alors, suivant les mouches, vous allez avoir des mouches qui sont déformées pour l'aile ou qui vont avoir un problème de poils sur l'abdomen. C'est-à-dire que toutes les modifications n'apparaissent pas au même endroit. Mais quand, dans une lignée, la mutation apparaît dans un endroit, si ensuite vous recroisez ces mouches avec des souris, avec des mouches sauvages, ou avec leur frère ou sœur, selon le genre de la bête, on ne parle pas de sexe là, évidemment, ce qui va se passer, c'est que le descendant va garder le même type de phénotype. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'il y a une composante évidemment génétique dans cette histoire. Donc, on sait bien que c'est lié à HSP83, le phénotype, parce que, en fait, vous pouvez avoir des phénocopies, ce qu'on appelle des phénocopies des phénotypes. Si vous élevez vos mouches à une température anormale, que vous leur faites un vrai choc thermique, ou si vous leur mettez la gélanamycine, dont je vous rappelle que c'est un inhibiteur des HSP90, alors vous pouvez créer le même type de phénotype. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez que c'est une morphogénèse, hein, qui aberrante, mais quand même c'est une forme qui est liée à une mutation dans un facteur qui régule au fond la conformation d'un certain nombre de protéines au cours du développement. Donc les deux auteurs, Suzanne et Suzanne, mais
Suzanne à la française et Suzanne à l'américaine, à l'anglo-saxonne, discutent donc ces trois possibilités que je vous ai mises ici. La première, c'est que HSP90 tamponne contre le bruit au cours du développement. Donc, nous, c'est ce que nous avons discuté pratiquement pendant une heure la semaine dernière. Hein. Mais nous sommes en 1998, et cette idée que HSP90 puisse tamponner contre le bruit au cours du développement, les auteurs considèrent que ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'ils considèrent que ça n'a pas d'intérêt à l'époque. Ils ont une autre hypothèse, qui est qu'HSP90 est impliqué dans la fidélité de la réplication de l'ADN. Comme ça se fixe à des molécules qui se lient à l'ADN, pour une partie d'entre elles, on peut penser qu'il y a des problèmes ensuite, il y a des mutations qui apparaissent du fait de la modification des interactions protéines-ADN. Par exemple, l'ADN qui apparaît plus nu, ou dans la réplication, il y a des erreurs, des choses comme ça. Et donc, que la baisse de HSP90 induit des mutations, et que ces mutations ont ces effets phénotypiques, par exemple, un œil poilu, ou des choses comme ça. Ensuite, la troisième possibilité, celle qu'ils, eux, trouvent la plus intéressante, c'est que la mutation révèle des phénotypes cryptiques dans une partie de la population. Donc, cryptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre population est en fait hétérogène et que si vous stimulez ou si vous provoquez la défense en fait, de ces bêtes en montant la température ou en mutant HSP90, alors il y a des sous-populations de phénotypes qui vont apparaître. C'est-à-dire que le génotype était déjà là, mais il n'apparaît que si on lui donne l'occasion d'apparaître en dérégulant d'une certaine façon l'expression vous allez voir les chaînes d'interaction qui sont responsables du développement. Donc ça ressemble beaucoup en fait à l'hypothèse 1, moi je trouve, je crois que c'est pas très 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 différent, mais ils n'en veulent pas. Donc en faveur de cette hypothèse numéro 3, hein, vous allez voir la conséquence, il montre que si on croise différents allèles de HSP83 ensemble, c'est-à-dire que si vous avez une mutation à un endroit dans une mouche et à un autre endroit dans une autre, si vous les croisez, ce qui se passe, c'est que vous amplifiez le phénotype. Donc ça suggère qu'effectivement, c'est lié aux mutations de HSP83. Comme je vous l'ai dit, si on met de la gédanamycine, on augmente le phénotype, donc ça montre que c'est lié à HSP83. Et ce qui est assez amusant, c'est que si maintenant on croise ces drosophiles avec des drosophiles de différents stocks qui sont présents dans le laboratoire, mais aussi avec des drosophiles sauvages, et ça c'est assez rigolo, on obtient ce qui montre que en fait ces phénotypes ne sont pas uniquement des phénotypes qui sont liés au fait qu'on a affaire à des drosophiles de cirque, comme il y a des mouches de cirque dans les laboratoires, ou des souris que l'on ne vivrait pas dans le monde sauvage. Hein. Ils sont habitués à vivre dans des cages tranquilles. Et là, même avec des populations sauvages, on a ça. Mais en fait, on voit que le phénotype n'apparaît pas de façon mendélienne, ce n'est pas un phénotype simple, mais qu'à travers une lignée, toujours la même, on a toujours le même phénotype. Donc ça suggère que c'est polygénique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un fond génétique qui est important pour voir apparaître le phénotype, et en même temps que c'est effectivement un phénomène de type non épigénétique, mais vraiment génétique. Donc, ils sont assez contents de ça, parce que... ce qu'il dit, c'est que, voyez là, vous avez leur conclusion, hein, c'est qu'ils ont fourni ce qui est, à notre connaissance, la première preuve d'un mécanisme moléculaire explicite qui accompagne les changements évolutifs en réponse à l'environnement. Donc, ce qu'ils pensent, c'est que suite à un stress, les heat shock protéines sont titrées par les protéines qui subissent ce stress, que je vous ai dit, ce qui est une réponse choc thermique classique, évidemment. Et une conséquence, c'est que des variants génétiques sont dévoilés. Ils étaient là, ils sont dévoilés. Et ils peuvent maintenant s'offrir à la sélection naturelle, donc pour peu qu'il y ait un avantage. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'ils veulent dire, de façon peut-être un peu plus illustrée. Je vais faire un petit dessin. Vous voyez, donc, l'idée qu'ils ont, c'est celle-là, c'est chacune de ces flèches, d'une certaine façon, c'est une protéine. Donc, vous avez ici tout un ensemble d'interactions protéiques, de chemins qui vont conduire à un phénotype normal. La sortie, c'est les flèches bleues. Et les bleus ici sont des protéines dont la structure n'est pas dépendante des heat shock. C'est-à-dire qu'en fait... mais par contre, les autres couleurs, et plus ça va vers le rouge et plus on est dépendant, sont dépendants pour leur structure d'une heat shock protéine. Donc si maintenant vous diminuez le niveau de heat shock,
vous augmentez les heat shocks, mais vous faites un choc thermique, donc vos heat shocks vont se mettre ailleurs que là où il faut, c'est-à-dire se mettre sur des faux clients, en fait c'est ça qui se passe, à ce moment-là, vous allez déréguler l'activité de ces protéines vertes, jaunes et rouges, et ce qui va résulter, c'est un phénotype intégré qui va, vous voyez ici, vous donner la mouche anormale. Alors, c'est, oui, c'est ce qu'ils pensent, en fait. Les conclusions sont ça, c'est qu'ils ont, ils pensent, eux, fourni un des premiers mécanismes qui permet de comprendre une évolution rapide. Donc, je vais vous donner un exemple simple pour illustrer cette diapositive-là. Supposez que vous ayez un trait génétique dont le seuil d'expression nécessite l'expression d'une dizaine de protéines et que chacune est représentée à un facteur un dixième, par exemple, et qu'il en faut 6 pour avoir l'effet seuil qui vous fait arriver le phénotype. Vous avez une chance sur 7000, en gros, d'avoir que le phénotype sorte. Donc, il ne va pas donner prise à la sélection naturelle de façon extraordinairement simple. Par contre, si maintenant vous faites un choc, ce qui fait que vous avez besoin d'avoir par exemple plus que 5 ou 4 de ces traits qui apparaissent pour avoir le phénotype, alors vous allez augmenter votre probabilité à 1 sur 700, puis à 1 sur 70. Et si un phénotype est révélé dans une fréquence de l'ordre de 1 sur 70, à ce moment-là, même s'il a un avantage sélectif relativement léger, il va donner prise à la sélection naturelle et vous allez pouvoir enrichir votre population dans des mouches qui seront très très près du seuil pour l'expression de ce phénotype et qui vont donc à ce moment-là pouvoir l'exprimer quasiment naturellement, c'est-à-dire en l'absence même de heat shock. C'est-à-dire qu'ils seront très très près du seuil de déclenchement du phénotype, qui fait que fondamentalement, on pourra maintenant rentrer dans un background sauvage, retirer la mutation HSP90 et on aura maintenant cette nouvelle forme d'animal. Donc, bon, c'est peu probable que ce soit celle-là qui survive, mais vous voyez ce que je veux dire, en gros. Hein. Donc, l'hypothèse sous-jacente, c'est ça, c'est que 1 à 5% des variants qu'on voit apparaître dans ces expériences où on augmente la température, ou au contraire, on diminue plutôt l'activité HSP90 ou HSP83, sont près du seuil pour ce trait nouveau, et on arrive à les enrichir au fil des croisements, en les croisant les uns avec les autres. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que la première hypothèse, qui est l'hypothèse que HSP90 tamponne contre le bruit au cours du développement, est une hypothèse qui les paraît peu intéressante. Et c'est d'autant plus intéressant que, d'une certaine façon, à l'époque, en 1998, ça vous paraît long ou court, ça dépend un peu de l'âge qu'on a, ce genre de référence. Pour moi, c'était hier. Pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Les problèmes d'épigénétique ou d'hérédité épigénétique n'étaient pas des problèmes qui étaient discutés énormément dans la littérature. C'était même un peu tabou, quoi. On n'osait pas trop parler de ça. Et en 2003, il y a eu un autre article qui est sorti, qui a été toujours dans Nature, je crois, ou dans Nature Genetics, je ne sais pas, dans Nature Genetics, par le groupe de Douglas Rudden, que vous voyez ici, où eux, ils ont fait une expérience qui est assez intéressante. C'est-à-dire que ça, c'est un œil sauvage hein, de mouche normale. Et il y a une mutation dans Krupol, qui est un gène de développement, je vous passe le détail. Et c'est un Krupol qui s'appelle Krupol Irregular Facets. C'est-à-dire que vous savez que les mouches ont des yeux à facettes, et donc les facettes des yeux sont un petit peu mal foutues. Et en fait, quand ils croisent, ils prennent ces mouches qui ont cette mutation Krupol, et puis ils font un crible génétique où ils délètent des grandes parties de chromosomes un petit peu partout, et ils se rendent compte qu'il y a une dizaine de mutations, de délétions génétiques, dans lesquelles ils ont maintenant des mouches avec des poils qui sont tout à fait bizarrement placés, y compris des poils qui vont aller dans les yeux. Donc l'œil est un peu plus petit du côté ventral, il est un peu réduit, et puis en plus, l'œil est poilu, en gros, quoi, hein. J'exagère un tout petit peu. Donc, ce genre de mutation, on l'observe quand ils ont mappé leur mutation dans leur mouche. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait des mutations dans le groupe Rhytorax, des groupes mutations qu'ils ont appelées Vernardi 3 et qui, en fait, est une mutation sur laquelle j'aurai peut-être le temps de revenir, mais peut-être pas, mais si vous avez été intéressé, vous pouvez regarder l'article. Et puis, des mutations dans HSP83. Donc ça, c'était intéressant parce que ça voulait dire que, vous savez, les trithorax, c'est quelque chose qui modifie la structure de la chromatine. Ce sont des groupes qui maintiennent la chromatine dans des formes activées ou non activées. En l'occurrence, ça a à voir avec l'acétylation des histones, qui sont des protéines qui se fixent à l'ADN et qui lui donnent une forme. Hein. Tout a une forme, y compris l'ADN aussi a une forme, bien entendu, qui est importante pour son expression. Donc si vous faites, ils se sont rendus compte qu'au fond, des mutations dans trithorax et des mutations dans HSP83, dans un contexte couple régulière facette, donne un phénotype tout à fait bizarre avec des poils aux yeux, quoi, en gros. Et comme ils ont vu que c'était HSP83, ils ont dit, bon, peut-être qu'il y a un phénomène heat shock. Donc ils ont pris leur souris irrégulière facette, qui est avec un œil un peu réduit, mais qui n'a pas ce phénotype poilu, et ils ont mis de la gel-d'anamycine. Ils ont nourri ces mouches avec de la gel-d'anamycine, c'est-à-dire qu'ils ont inhibé de façon pharmacologique l'activité de HSP83. Et quand ils font ça, ils obtiennent le même phénotype, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une mutation, il suffit de mettre la gel-d'anamycine et on voit apparaître la mutation. En tout cas, le phénotype. Hein. Donc ça, c'est assez fascinant. Ce qui est encore beaucoup plus fascinant, c'est que je prends deux mouches qui ont, enfin, mâles, femelles, c'est certainement, en plus, c'est un effet maternel. Hein. On voit que ça apparaît 10 fois plus chez la femelle que chez le mâle. Donc il y a un effet maternel. Ce qui, quand il s'agit de régulation épigénétique, évidemment, un signe important. Et si on croise ces mouches, F1, F2, F13, mais qu'on retire maintenant la gel-d'anamycine, c'est-à-dire qu'on restaure l'activité HSP90 normale, eh bien, le pourcentage de mouches qui ont ce phénotype augmente, devient maximal autour de 50% à la 6e génération et se maintient au moins jusqu'à la 13e génération. Et là, vous n'avez plus l'inducteur. Hein ? Ça, c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que vous n'avez plus la HSP90 inhibée. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez stabilisé un phénotype épigénétique dans le développement de votre drosophile. Alors, c'est possible que quand on le retire, qu'au bout des générations, on revienne au phénotype normal. C'est important de savoir combien de temps ce phénotype se tient et aussi de savoir si c'est vraiment épigénétique. Parce que aujourd'hui, ce qu'on demanderait aux gens qui ont fait cette manip, c'est de séquencer le génome entier de la mouche pour montrer que là-dessous, il n'y a pas un polymorphisme génétique sous-jacent comme dans la première série d'expériences. Mais en fait, l'explication qui est favorisée par ces auteurs, par le groupe de Rodin, l'explication, elle est la suivante, c'est-à-dire qu'on a affaire à un phénotype épigénétique parce que, fondamentalement, au niveau maternel, eh bien, on a une dérégulation, en fait, on a une dérégulation de l'acétylation des histones. Les histones, ce sont des protéines qui interagissent avec l'ADN et qui donnent à l'ADN une certaine forme. Donc, si j'hyperacétyle mes histones, je vais détendre, en fait, ma chromatine et je vais permettre d'augmenter ma transcription. Et par contre, si j'hypoacétyle mes histones, je vais avoir une condensation de la chromatine et je vais avoir une diminution de la transcription. Et ce qu'ils ont regardé, c'est s'il y avait des modifications, des problèmes d'expression aberrante de gènes dans la mouche traitée à la gel-d'anamycine. Ça, c'est l'expression normale d'un morphogène. Je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, qui s'appelle Wingless. Vous voyez que le morphogène a ce type d'expression normale dans le disque, qui est le disque, en fait, œil L. Vous voyez ici l'expression de Wingless. Quand je prends mon mutant, ça c'est dans le mutant irrégulière facette. Irrégulière facette nourrie à la gel-d'anamycine, c'est-à-dire qu'avec peu d'activité, heat shock, vous voyez que vous avez une dérégulation de l'expression de Wingless. Et vous pouvez voir ici l'expression de Wingless dans l'animal. Mais maintenant, si je rajoute des drogues comme la tricostatine A, qui augmente l'acétylation des histones, à ce moment-là, ce que je vois, c'est que j'ai une baisse de l'expression de Wingless et j'ai un retour, en fait, au phénotype normal, c'est-à-dire au phénotype irrégulière facette, mais sans poils dans les yeux. Ce qui suggère qu'effectivement, le phénotype que j'observe quand je mets la gel-d'anamycine, et ensuite même quand je retire la gel-d'anamycine et que je laisse mes générations avancer, c'est un phénotype qui est un phénotype de type variegation lié à des modifications de structure chromatinienne. Donc, je vous laisse là avec cette histoire, mais c'est juste pour vous dire que si vous êtes extrêmement intéressé par ces affaires, je vous conseille d'aller regarder Alors, bon, eux aussi, hein, ils pensent qu'ils ont trouvé le Graal, c'est-à-dire que ce qu'ils pensent, c'est qu'à la lumière de données, nous proposons l'amélioration du modèle de canalisation évolutive proposé par Waddington en 1942. Bon, on en a parlé la semaine dernière. Eux, ce qu'ils pensent, c'est que la réponse adaptative est fixée épigénétiquement, c'est-à-dire que cette modification de la structure de la chromatine se transmet de génération en génération, à partir évidemment du cytoplasme maternel. Hein, c'est-à-dire que c'est le cytoplasme maternel qui fournit les éléments qui permettent la restructuration de la chromatine de telle sorte qu'elle va vous donner ce phénotype poilu autour des yeux. Hein. Donc, il reste quand même extrêmement prudent parce que c'est jouer avec le feu que de penser qu'il peut y avoir une hérédité épigénétique en 2003. C'est quand même des choses qui intéressent beaucoup aujourd'hui tous nos collègues, hein. En particulier, moi je vous conseille d'aller regarder le dernier numéro, le numéro volume 18 du Current Opinion in Development and Genetics, or Genetics and Development, qui est sorti il y a 2-3 mois, et tout le numéro est consacré à l'hérédité épigénétique. Vous verrez que c'est absolument fascinant. Donc, c'est tout à fait des choses nouvelles. Voilà. Donc, ces données que je viens de vous décrire brièvement, bon, en tout cas, ça peut vous donner l'occasion d'aller chercher dans la littérature des éléments de compréhension de ces phénomènes de tamponnage, des phénomènes au cours du développement dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Ils existent chez les plantes, ils existent chez les invertébrés, comme vous avez vu, mais ils sont peut-être aussi valables pour les vertébrés. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est les vertébrés, j'imagine. Encore que les invertébrés sont des gens tout à fait raisonnables auxquels on a le droit de s'intéresser. Et donc, je vais vous montrer un tout petit peu ce qui se passe pour le poisson. Donc là, c'est un article d'une collègue qui travaille à Édimbourg, qui s'appelle, son équipe, c'est Veronica van Heideningen, et qui a travaillé, elle, sur le développement du poisson zèbre, hein, qui est maintenant devenu un outil très très important pour les gens qui font de la biologie du développement et de la génétique. Donc ça, c'est un poisson normal, comme vous voyez. Vous voyez qu'il est normal parce que d'abord, il est content, et ensuite parce que si vous faites le rapport entre la surface de la lentille et la surface de la rétine, vous voyez qu'il y a une très grosse lentille, hein, dans l'œil. Et donc, si vous regardez le rapport de la rétine à la lentille dans une population d'animaux, et que vous rajoutez du 17-AHG, c'est-à-dire la gel-danamycine, c'est-à-dire que vous inhibez les shock protéines, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas d'effet de votre gel-danamycine. Par contre, vous pouvez prendre un mutant qui est un mutant d'un gène PAX6. Il y a plusieurs gènes PAX6. Appelez-le PAX6, ça vous fait plaisir. Appelons-le comme ça. Donc, dans le mutant PAX6, normalement, si vous voulez, vous avez déjà une petite réduction du rapport rétine-lentille. C'est-à-dire que la lentille est légèrement réduite, comme vous pouvez voir dans le dessin que je vous ai fait de ce poisson. Et maintenant, vous prenez cet animal qui est mutant, et vous inhibez maintenant, avec la gel-danamycine, vous inhibez la heat-shock protéine, et ce que vous voyez, c'est que maintenant, vous avez une très forte réduction, vous voyez la distribution, une très forte réduction, c'est une réduction, ça, parce que c'est le rapport rétine sur lentille, donc plus la lentille est petite, et plus le rapport est grand. Donc, vous voyez, c'est qu'avec la gel-danamycine, c'est-à-dire en inhibant la heat-shock 90, vous augmentez énormément le phénotype anormal que vous voyez déjà dans le background muté PAX6. Donc, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ça vous rappelle exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure pour les drosophiles, bien entendu. Ça montre que la force du phénotype, hein, la force du phénotype peut être modifiée par l'environnement. Hein. Et pour les gens qui s'intéressent un peu aux pathologies, il y a des gens dans des familles, il y a des pathologies, et tous les gens n'ont pas la même pénétrance de la pathologie. C'est-à-dire que la maladie n'apparaît pas avec la même force, même si c'est une maladie qui se transmet génétiquement, comme on le sait. Tous les gens n'ont pas forcément dans la famille la même. Il y en a qui apparaissent tout à fait bien portants, il y en a qui sont plus ou moins malades, etc. Ce qui veut dire que l'environnement, le développement et ce qui se passe ont même à génome égal, et c'est ce dont on discute maintenant depuis 2 heures, même à jamais égal, peut avoir des effets tout à fait différents.
Il se trouve que dans cette cour de leurs expériences, nos collègues donc d'Edimbourg, Yayati et collègues, chez Véronica, ont utilisé comme contrôle une lignée qui était une lignée mutée chez le poisson ZEP, qui est mutée pour un gène qui s'appelle GLI2, qui est, si vous vous souvenez des cours de l'année dernière, et dans le chemin génétique de Hedgehog. Et en utilisant cette lignée, ils ont rajouté, ils ont vu qu'il n'y avait pas de... Bon, elle a un petit phénotype qui n'a rien à voir, qui a un phénotype, en fait, au niveau des somites, mais ce n'est pas le problème. Ils se sont rendus compte que le phénotype qu'ils regardaient, qui était un défaut de croissance des somites, ou de forme des somites, n'était pas du tout modifié par HSP90, plutôt par le 17AG qui régule l'expression de CHOC, plutôt leur activité. Par contre, quand ils ont mis du 17AG, ils ont vu un autre phénotype apparaître, qui avait dû passer rigolo, dans 0,2 à 0,5% des animaux, ce qu'ils ont vu apparaître, c'est un phénotype de type anophthalmie ou microphthalmie, c'est-à-dire un petit œil, small eye. Et par la sélection génétique, c'est-à-dire qu'on peut modifier le fond génétique avec des croisements divers, on peut éliminer la mutation GLI2, et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec GLI2. Donc ça n'a rien à voir avec Sonic, c'est qu'il y a un fond génétique dans ce poisson qui fait que quand on met du 17 à AG, on voit apparaître un phénotype petit œil. Et d'ailleurs, c'est curieux parce qu'au cours des croisements, on peut séparer en deux catégories de poissons. Il y en a chez qui le 17 à AG a un effet positif, et d'autres chez lesquels il a un effet négatif. C'est-à-dire qu'on peut, on peut diminuer l'effet petit œil dans le groupe 2, on l'augmente dans le groupe 1. Bon. Ce qui prouve qu'il y a plusieurs leucies qui sont impliquées dans cette régulation. Donc, dans le groupe 1, dans lequel l'addition de 17 AG augmente le phénotype petit œil, c'est-à-dire en clair l'œil, voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà vos poissons. Ça, c'est un poisson normal, c'est à deux yeux, quoi. C'est un peu comme tout le monde. Et quand vous mettez du CAG dans ce contexte GLI2 muté, vous voyez que vous avez des poissons, soit ils ont un œil normal d'un côté, ils ont un petit œil de l'autre, ils ont deux petits yeux, ou il y a un œil, ou pas d'yeux du tout. Donc, une variété de phénotypes très importante qui montre qu'il y a quelque chose de stochastique dans l'expression du phénotype. Hein, parce que c'est dissymétrique. Si c'était un truc non stochastique, ils seraient tous comme ça ou tous comme ça. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un phénotype qui se balade au cours du développement. Et dans ce système, ils se sont aussi rendus compte que dans certains de ces poissons, du groupe 1 en particulier, quand on rajoute le 17 AG, on voit aussi des phénotypes de ce genre. Hein, c'est-à-dire des poissons qui se dupliquent. Ils ont deux avant et un seul arrière. Il y a ce phénotype-là que je vous ai montré, mais il y a aussi celui-là. Et ça suggère, de nouveau, au cours du développement, une régulation de Wnt chez le poisson. Et ils ont pu démontrer que c'était vrai parce que, en fait, si on utilise carrément du chlorure de lithium qui interagit avec la voie Wnt, eh bien, on peut réverser le phénotype. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va avoir un œil de taille normale. Donc, l'idée, c'est que la gel d'anamycine, en l'occurrence HSP90, régule quelque chose le long de la voie de transduction du signal de Wnt, et que c'est ça qui induit un phénotype petit œil chez les poissons. Donc nous allons, avec mon laboratoire, vous proposer une autre explication possible. Je ne fais pas souvent, mais je vais vous montrer un tout petit peu une autre explication possible qui est liée à des choses qui se font chez nous, qui sont en train de se faire, et qui s'appuie toujours, une explication qui s'appuierait toujours sur HSP90, mais qui met en jeu TAC6, c'est-à-dire un gène sur lequel je reviendrai souvent en cours du cours, parce qu'en fait, je vais vous faire un cours qui est beaucoup tourné autour du développement et de l'évolution des yeux, de la vision en tout cas. Et quand on discutera, donc je vais revenir souvent quand je parlerai de l'évolution de l'œil. Peut-être même aujourd'hui, je commencerai si on a un petit peu de temps, je ne suis pas sûr, mais on verra. Donc pour l'instant, ce que je vous demande d'accepter comme idée, c'est que PAC6, c'est un gène maître de l'œil. Alors ça ne veut rien dire, un gène maître, je pense, il n'y a pas de gène maître. En fait, les gènes, je vous le dis souvent, ça agit par réseau, et il serait difficile de dire qu'il y a un gène maître. Mais
Des fois, si on met le paquet sur un gène, on peut vraiment faire bouger tout le réseau de gènes d'un côté. Si on retire, ce que font les biologistes en général, soit ils retirent un gène, comme beaucoup d'entre eux, donc ils bousillent tout, soit ils surexpriment un gène d'un facteur 10, 100 ou 1000, ce qui nous assemble ne veut pas dire grand-chose. Mais ça révèle quand même quelque chose de l'activité du réseau ou de sa fonction. Et dans le cas de PAX6, c'est un cas assez unique, que nous aimons bien. Donc, dans un gain de fonction, ça c'est un travail que j'ai illustré à partir de papier de Walter Gehring, que vous connaissez tous, j'imagine. Donc, Walter Gehring a montré que si on surexprimait PAX6 au cours du développement chez la mouche, ici par exemple dans l'œil, dans le disque imaginal qui va donner naissance aux antennes chez la mouche, vous allez faire des yeux dans les antennes. Et si vous l'exprimez PAX6 très fortement dans la patte, vous allez mettre un œil sur les pattes. Et les yeux sur les antennes sont même fonctionnels. Si on enregistre, on fait le rétinogramme, en gros, on voit que l'œil est fonctionnel. Donc ça veut dire que si je m'y prends assez tôt au cours du développement, en balançant une expression forte d'un gène de développement, je peux créer un œil dans une structure qui n'est pas censée avoir un œil. Ça marche aussi d'ailleurs chez le xénope, c'est-à-dire que ça ne marche pas que chez les invertébrés, ça marche aussi chez les vertébrés. Je ne crois pas que c'était essayé chez les mammifères. D'ailleurs, je ne sais pas où vous voudriez qu'on vous mette un œil, honnêtement, je veux dire, en dehors de là où ils sont. Donc, n'y pensons pas. Donc, par contre, si je supprime PAX6, si je fais une perte de fonction de PAX6, qu'est-ce qui se passe? J'ai un phénotype de type petit œil. Alors, c'est compliqué parce que PAX6 a d'autres fonctions que la formation de l'œil. Toute la région entière du système nerveux est contrôlée d'une certaine façon par PAX6. Mais on peut avoir des mutants hypomorphes dans lesquels on va avoir essentiellement une atteinte de la forme de l'œil. Donc, PAX6 est un facteur de transcription. Il y a un facteur de transcription de la famille des homéoprotéines. Alors, ce que nous avons démontré dans mon labo il y a maintenant quelques années, c'est que ces facteurs de transcription, si vous voulez, sont capables de passer entre cellules. Donc, et on ne sait pas comment ça passe. C'est-à-dire qu'on a une petite idée, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler pas mal sur cette question, mais au fond, ce n'est pas sécrété de façon normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal peptide, et ce n'est pas internalisé par endocytose. Mais on connaît, Joliot en particulier, a pas mal travaillé sur le chemin de transfert. Et une des hypothèses que nous avons faites, parmi les nombreuses hypothèses sur le rôle de ce passage, et hypothèse plus qu'hypothèse, puisque c'était publié à plusieurs reprises, c'est que très tôt au cours du développement, comme ces facteurs de transcription sont auto-activateurs, c'est-à-dire qu'ils activent leur propre transcription, si je l'exprime d'abord dans une... Ça, c'est le neuroépithélium, donc c'est ce qui va donner le système nerveux. La rétine, c'est du système nerveux, bien entendu. Eh bien, je vais passer dans la prochaine cellule, j'active ma propre transcription, je passe dans la deuxième cellule, j'active ma propre transcription, etc. Et en fait, d'activation en activation, j'ai un processus qui est un processus d'infection du neuroépithélium. C'est-à-dire qu'en fait, je peux transformer, si j'ai énormément de PAX6 ici, transformer tout mon neuroépithélium en PAX6. Mais de façon évidemment réciproque, si j'arrive à bloquer le passage de PAX6 entre deux cellules, je vais diminuer la taille de mon œil. Donc le modèle que nous pouvons vous proposer, c'est le suivant. Voilà. Ce serait que voilà un œil normal, c'est-à-dire que PAX6 est passé pendant toute cette direction-là, puis il a été bloqué quelque part. On en reviendra quand je vous parlerai de la question des bords. Vous voyez, il y a un séminaire, une conférence qui est liée à la question des bords, comment faire des bords dans le système nerveux. Eh bien, voilà, ça, ce serait un œil normal. Si je mets de la gel d'annamycine, la manip de Véronica van Heiningen, vous voyez que je peux, Heiningen, je ne sais plus comment on prononce son nom, on peut, à ce moment-là, bloquer le passage de PAX6. Et si je mets un anticorps, je peux aussi bloquer le passage de PAX6, un anticorps anti-PAX6 au cours du développement. Donc en fait, je devrais avoir le même phénotype qu'elle a obtenu, elle, avec de la gel d'annamycine, c'est-à-dire qu'en bloquant HSP90, avec un anticorps, à condition de faire l'hypothèse supplémentaire que je formule devant vous et que nous allons tester, et peut-être que je dirai la réponse au mois de décembre, sinon ce sera l'année prochaine. L'hypothèse, c'est que HSP90 joue un rôle dans le transfert de PAX6 entre deux cellules. Donc si le transfert de PAX6 entre cellules est effectivement important pour la formation de l'œil, et si la gel d'annamycine peut intervenir dans le transport de cette protéine, alors je dois pouvoir avoir le même phénotype dans ces deux situations, celle où je mets du 17 AG et celle où je mets un anticorps. Alors, évidemment, ce que nous savons, c'est que ce n'est pas une hypothèse absurde, hein, car l'entrée dans les cellules de gros machins comme ça, comme une protéine, mais voir ici, par exemple, carrément, c'est un micro-organisme, hein, c'est Toxoplasma gondii, donc qui rentre dans des cellules. Vous voyez que c'est une bestiole qui sécrète elle-même, hein, c'est la famille des falciparum, qui sécrète elle-même des HSP90, ses propres HSP90, qui lui permet de traverser la membrane et d'infecter la cellule. Et vous voyez ici le niveau d'infection par le sporozoïte. Vous voyez ici que si je mets de la gélanamycine, 17 AG, je bloque l'entrée parce qu'elle sécrète ce qui lui permet de traverser la membrane. Donc l'hypothèse que nous formons, c'est qu'au fond, ces facteurs de transcription ils sont des molécules infectieuses qui ont besoin d'HSP90 pour entrer et que si je bloque, alors je peux avoir un phénotype de type petit œil parce que j'ai empêché le passage de la protéine. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si on empêche effectivement le passage de la protéine in vivo avec un anticorps, hein, eh bien, on crée des phénotypes. Vous voyez, ça, c'est un animal normal. Ça, c'est un animal qui a deux petits yeux sur les côtés, un petit œil là, ce petit œil là, pas d'œil d'un côté, ou alors pas d'œil du tout. Et ça vous rappelle de façon frappante le phénotype que je vous ai montré tout à l'heure pour la gélanamycine. Mais ça, c'est pas avec la gélanamycine, c'est avec l'anticorps anti-PAX6 qui bloque le passage au cours du développement. Donc, je n'ai pas la réponse, mais ça suggérerait qu'une des modes d'action de HSP90, c'est de bloquer le passage de ces facteurs de transcription qui agiraient comme des morphogènes. Hein. Donc, comme je vous dis, la suite, je n'irai pas au prochain numéro, effectivement, puisque le prochain numéro, ce sera là, en l'occurrence, au mois de décembre, si on attend de faire les manips d'ici là. Si on n'a pas le temps, eh bien, il faudra que vous reveniez l'année prochaine, je suis désolé. Peut-être même l'année d'après, parce que des fois, ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne croit à ces petites affaires. Donc, voilà. Donc, Jean... Alors, avant de passer à l'étape suivante, j'aimerais vous mettre ça en relief avec un grand classique de l'évolution qui est la formation du bec chez les pinsons de Darwin. Hein. Vous connaissez l'histoire de Darwin qui a fait le voyage sur le Beagle. Quand il rentre, il a capturé des pinsons sur les îles Galapagos. C'est un archipel, il y a plusieurs îles. Donc il a pris des pinsons sur plusieurs îles et puis il a mis des pinsons dans son sac. Et il est rentré, et à ce moment-là, il est allé à la Société zoologique de Londres en 1837. Il a montré ses pinsons à un ornithologue anglais qui s'appelait John Gould, lequel a classé des spécimens. Hein. Et il a classé des spécimens, et voilà ce qu'il a vu. Hein. Donc ce qu'il a vu, c'est ça. Là. Donc vous voyez, des pinsons, ce sont quatre pinsons qui se distinguent énormément par la forme du bec. Hein. Donc... ayant vu ça, Darwin était à reprendre ses notes, toujours prendre des notes, il a vu qu'en fait, il avait récupéré chaque famille de pinsons sur une île différente dans l'archipel des Galapagos. C'est le coup des tortues, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire des tortues de Darwin, des Galapagos. Donc, d'après Wikipédia, je ne sais pas comment on faisait avant Google, honnêtement, c'est une affaire qui continue à être suivie par deux chercheurs, Peter et Rosemary Grant, qui étudient l'évolution des pinsons, hein, toujours, et ont découvert qu'à la suite d'une sécheresse sur l'île Daphné Major, la taille du bec a augmenté, et ils proposent qu'elle a augmenté parce que les animaux à large bec sont mieux capables de se nourrir de graines enveloppées dans des coquilles très résistantes, ayant de ce fait survécu la sécheresse. Alors, vous voyez, sécheresse, les graines sont plus résistantes quand elles sont épaisses, mais à ce moment-là, si les pinsons veulent les bouffer, il faut qu'ils aient un bec plus gros. Voilà. Mais c'est pas ça vraiment. Bon, c'est drôle parce que c'est un peu finaliste comme idée, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que deux groupes, le groupe de Tabin et le groupe de Cheng Minchuang, en 2004, ont publié un papier où ils ont regardé l'expression de BMP. Alors BMP, c'est de la famille des TGF-bêta, on en a souvent parlé. C'est encore un morphogène, BMP, dans le bourgeon mésenchymateux qui donne naissance au bec chez les pinsons, chez les oiseaux, hein, d'une façon générale. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que BMP, hein, BMP est plus fortement exprimé chez Magnirostris, qui est le type qui a le plus gros bec, hein, que chez Fortis, qui est pourtant pas mal, mais Bon, mais bon, c'est pas un magnérostris, hein, ça c'est clair. Donc, vous voyez que quand on regarde l'expression de ce morphogène dans le mésenchyme, on a une plus forte expression de BMP. Donc, l'idée, c'est que, en fait, c'est BMP qui induit la formation du bec, du bec important. Et donc, ils ont fait la manip. Alors, voici ici, ils l'ont fait chez le poulet, parce que faire ça chez le pinson, c'est pas très pratique. Donc, ils ont pris un poulet, et puis, au stade 36 de développement du poulet, voilà à quoi ça ressemble le bec. Hein. Il n'a pas bu, hein, mais le nez rouge pour que vous puissiez reconnaître à quoi ça ressemble. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé BMP avec un virus de type RCAS qu'ils ont exprimé au niveau du mésenchyme, justement. Et vous voyez que dans ce cas-là, on obtient un poulet à très gros bec. Hein, et puis, on peut aussi diminuer l'expression de BMP4 de son activité en faisant exprimer un inhibiteur de BMP qui s'appelle Noggin. Et à ce moment-là, ce qu'on obtient, comme vous pouvez voir, c'est un petit bec. Donc, ce qui est amusant, c'est de voir qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit, un peu d'évolution expérimentale, c'est-à-dire reproduire ce que Darwin a pu voir en jouant avec des morphogènes qui sont des morphogènes extrêmement intéressants. D'autant plus intéressant que si je voulais relier, en rêvant, si vous voulez, l'affaire aux Wheatstock protéines, rappelez-vous que la semaine dernière, j'avais terminé la conférence, ou le cours, en vous expliquant que HSP90 est un cofacteur de la transduction du signal par TGF-bêta, qui est en fait une BMP, hein, ce qu'on appelle les bone morphogenetic proteins. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer que vous vous rappelez, si je n'ai pas d'HSP90, j'active, au moment où le TGF se met sur ses récepteurs, si j'inhibe HSP90 avec du 17-AAG, toujours l'AG d'anamycine, bien, ce que je fais, c'est que je force l'ubiquitination de mon récepteur et j'entraîne sa dégradation dans le pathway du protéasome. Et donc, je bloque en fait la transduction du signal du TGF-bêta. Donc, je ne dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé, mais on pourrait très bien imaginer que l'évolution rapide du bec a été liée à un phénomène d'augmentation des heat shocks, hein, et donc d'une augmentation de la transduction du signal par TGF-bêta, et donc l'apparition d'un phénotype, qui est un phénotype gros bec, qui ensuite aurait été assimilé par un des mécanismes sur lesquels j'ai essayé de discuter avec vous à propos de la drosophile dans la lignée des pinsons. Alors, évidemment, les choses se sont-elles passées ainsi? Bien sûr qu'on n'en sait rien, et ça vous confirme ce que je vous ai dit la semaine dernière, bien entendu, c'est que, bien sûr, nous pouvons proposer des mécanismes généraux pour l'évolution, je dirais même plus que généraux, des mécanismes universels de l'évolution, mais en aucun cas, nous ne pouvons refaire l'évolution, c'est-à-dire revenir en arrière et le refaire de nouveau pour montrer que ça s'est effectivement passé comme ça, sauf évidemment à inventer la machine à remonter le temps et éventuellement aussi à le redescendre. Donc, je vais en arrêter là, donc pour l'instant, avec les heat shocks. Et je vais passer à ce que j'aurais dû commencer au début de la séance. Je n'ai pas perdu tellement de temps la semaine dernière. C'est pour ça que je vais un petit peu vite aujourd'hui. Je vous prie de m'en excuser pour essayer de rattraper le temps perdu. Bon, enfin, au fond, hein, comme je dis, on n'est pas quand même... ça ne fait pas le programme que j'ai annoncé. Il n'y a pas de programme, d'ailleurs. On le fera peut-être, on continuera l'année prochaine. Mais j'aimerais vous discuter la deuxième... donc, je vais commencer maintenant la deuxième partie du cours. C'est à partir de quand peut-on parler de système nerveux? Bon, ça a l'air un peu décousu, et ça l'est d'ailleurs, mais vous verrez qu'au bout du compte, tout ça a malgré tout un semblant de logique. En tout cas, j'ai essayé d'introduire un semblant de logique dans la structure du cours. Donc maintenant, à partir de... Alors, je vais vous revenir un petit peu à l'origine des eucaryotes, hein, parce que c'est quand même une chose très importante. Donc, Selon De Duve, et là je renvoie à un article de Nature Genetics de 2007, qui est une revue par De Duve, vous savez que De Duve est un grand biologiste cellulaire, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, une petite vingtaine d'années je crois, un événement crucial dans l'histoire des eucaryotes, c'est il y a environ 2 milliards d'années, on imagine un truc comme ça, on ne sait pas très bien si c'est 1 milliard, 2 milliards, 1 milliard et demi, l'augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre. Donc cette période a coïncidé avec un développement de la vie aérobique, il y avait de l'oxygène, et l'acquisition évidemment d'organelles comme les mitochondries et peroxysomes. Alors les peroxysomes, c'est comme des mitochondries, si vous voulez, mais il n'y a pas d'ADN dedans. Hein. C'est des petites vésicules dans lesquelles il y a des enzymes qui permettent de détoxifier, qui hydrolysent le H2O2, qui aussi synthétise des acides gras polyinsaturés et qui hydrolyse des acides gras à très longue chaîne.
Donc ce sont des détoxificateurs, les peroxysomes. Et on estime l'origine des eucaryotes, je vous dis, à 2,7 à 1,3 milliards d'années. Ce n'est pas extrêmement précis, hein. Je vous prie de m'en excuser, mais j'y suis pour rien. Donc, les gènes d'eucaryotes, donc on va passer à une autre diapositive. Bon. Donc ça, c'est ce que je vous disais, pour ceux qui sont intéressés à ces questions de développement épigénétique et du rôle des heat-shocks et de la structure des chromatines, de la chromatine, je pense que vous pouvez vraiment faire votre miel de ce numéro-là qui est très intéressant. Donc, comment ça s'est passé? Ce qu'on imagine, c'est que les archébactéries, que les eucaryotes sont nés d'une fusion, d'une endocytose, soit des bactéries, des eubactéries par les archébactéries, soit le contraire. Hein. Donc là, voilà un arbre phylogénétique. Voilà, vous avez, ça, c'est construit sur la base des séquences d'ARN ribosomaux. Et vous avez ici les archées, les eucaryotes. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à ce point-là, les archées ont bouffé une bactérie et hop, ça a donné les eucaryotes, hein, ou le contraire. Vous avez ici une autre représentation du même arbre, avec les bactéries par là, et puis ici, eucaryotes et archées, parce que les archées sont quand même plus proches des eucaryotes que les bactéries. Le fait que je puisse vous montrer deux arbres, ça doit vous inciter à être très prudent. C'est pour ça que j'ai montré deux représentations de la chose, parce que les arbres sont toujours des théories. Les arbres, ce n'est pas des représentations réelles de ce qui s'est passé. L'arbre cache toujours une théorie derrière lui. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette idée des théories qui sont cachées par les arbres, allez voir les livres de Pascal Tassi qui expliquent très bien ça. Donc, les arbres ne sont jamais neutres quand on les dessine. Je n'ai pas le temps là de rentrer dans le détail pour montrer en quoi ces deux arbres sont très différents en fait. Mais ils sont très différents parce que là, ils montrent que les eucaryotes et les archées naissent au même moment. Là aussi, ils naissent au même moment. Mais ce n'est pas le même processus, comme vous pouvez voir. Donc, bon, ce n'est pas très grave. Donc, les archées sont similaires aux bactéries par beaucoup d'aspects. Leur structure cellulaire est très proche de celle des bactéries. C'est un troisième monde, les archées. Il y a les prokaryotes, il y a les eucaryotes, et puis il y a les archées. Il ne faut pas oublier celle-là. Mais elles sont très proches des eucaryotes. Par d'autres, les eucaryotes, c'est nous, par d'autres aspects, c'est-à-dire en particulier, elles ont des ARN polymérases qui sont extrêmement complexes, très proches des nôtres. Et elles ont un chromosome circulaire comme les bactéries, mais les gènes sont des gènes morcelés. Il y a des introns chez les archées. Donc et la réplication et la réparation de l'ADN utilisent des mécanismes et des enzymes qui sont proches de ceux des eucaryotes. Voilà. Donc je vais prendre pour continuer une revue récente, qui est une revue qui s'appelle Reconstructing Evolution, Gene Transfer from Plastid to the Nucleus, et que j'ai prise dans BioEssay en 2008. C'est un papier de Bock et Timmis. Donc, comme je vous l'ai dit, il est probable, et même très probable, que les cellules eucaryotes sont apparues il y a environ 1 milliard d'années, un petit peu plus peut-être, à la suite de l'incorporation des bactéries par les archées. On va dire que c'est les eubactéries qui ont été bouffées par les archées. Vous savez qu'il y a là-dessus discussion parmi les spécialistes. Il y a même qui pensent qu'en fait, il y avait déjà des proto-eucaryotes. L'article de Deduve fait allusion à ça. Donc, ces endosymbiontes, c'est-à-dire, j'ai pris une bactérie et je l'ai mangée. Voilà comment ça s'est passé, par exemple. Vous avez ici, donc ça, c'est l'article de Bock et Timmis. Vous avez donc ici une archée ou une pro-eucaryotic cell. Je mets un point d'interrogation parce que les spécialistes se battent. Et puis, vous avez les bactéries qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, la bactérie est mangée par l'archée. Et elle arrive avec tout son génome dans cette cellule qui va devenir une cellule eucaryote, qui est maintenant du fait une cellule eucaryote. Mais tout le matériel génétique de la bactérie va passer dans le noyau, tout sauf quelques gènes, en gros. Donc ce que fait la bactérie, c'est qu'elle se débarrasse de son génome et elle envoie l'essentiel de son génome dans le noyau. Et elle garde environ 13 gènes, en gros, pas plus, qui ont des éléments de régulation bactérien, c'est-à-dire que en fait, c'est l'ARN ribosomal 70S, c'est pas du 81. Les ARN de transfert sont spécifiques, bien qu'ils soient amenés par le noyau, ils sont pas les mêmes. Les codons sont des codons qui sont un peu différents. Pour ceux d'entre vous, j'en vois dans la salle, qui sont un peu amusés avec la biosynthèse des protéines quand ils étaient petits, ça doit leur rappeler quelque chose. Donc, ce génome des endosymbiontes est transféré au génome nucléaire. Ici, vous pouvez avoir maintenant une cyanobactérie, hein, qui, elle, va être mangée par celui-là et qui va vous donner des chloroplastes. Et le même principe s'applique. Les gènes du chloroplaste de cette bactérie, des cyanobactéries, vont passer dans le noyau. Et là, ça va vous donner l'origine des plantes. Hein, ce sont des animaux qui sont capables maintenant de fixer le CO2 et de fabriquer de l'oxygène par la photosynthèse. Et de nouveau, ça se vide, c'est-à-dire que vous avez un grand transfert de génome entre vos organelles et votre noyau. Et puis, évidemment, il y a de la discussion encore entre tout le monde. Mais essentiellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Du moins, c'est comme ça qu'on pense que ça s'est passé. Hein. Il en résulte que même si le génome des organes... Alors, il y a quand même il y a beaucoup de bactéries dans une cellule, il y a beaucoup de chloroplastes dans une plante. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que même si leur génome est très simple, si vous prenez une feuille d'épinard, hein, vous avez 20% de l'ADN de l'épinard qui est de l'ADN chloroplastique. C'est pas rien, c'est-à-dire que quand vous regardez l'ADN, c'est énorme. Hein. Si je dis ça, c'est pas tout à fait par hasard. C'est un cas extrême, l'épinard. Hein. Mais bon, il reste que dans les plantes, vous avez entre 5 et 20% de votre ADN qui est de l'ADN non nucléaire. Hein. Donc, ce transfert de gènes entre l'endosymbionte et le noyau a joué un grand rôle de l'évolution. Donc, les données de bioinformatique, telles qu'on les connaît aujourd'hui, suggèrent que chez Arabidopsis, qui est une plante, qui est la drosophile, si vous voulez, des gens qui travaillent sur les plantes, hein. Chez Arabidopsis, vous avez, sur les 25 000 gènes d'Arabidopsis, il y en a 4 500, 18%, qui ont été hérités des cyanobactéries. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas rien, c'est énorme. C'est-à-dire que la part de la bactérie dans la construction du génome de la plante est quelque chose d'extraordinairement important. Alors, ça veut dire que la complexité des génomes trouve une part de son origine dans ce transfert, hein, et que ces gènes qui ont été incorporés ont évolué, hein, et ont servi aussi au développement de la physiologie de la plante, hein, de la cellule eucaryote. Donc elles ont joué un rôle important, et elles jouent toujours un rôle important dans des processus physiologiques qui n'ont plus rien à voir, après 1 milliard d'années, vous pensez, avec la fonction originale de ces gènes. Et c'est un petit peu là que je vous amène, parce que vous direz, il y a le système nerveux là-dedans. Patience, le système nerveux va arriver, de toute façon il arrive toujours. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, j'ai quand même justifié mon dérapage vers la mitochondrie, dans un cours qui est dédié, comme vous le savez, au système nerveux et à son évolution, puisque c'est pour ça que vous êtes venu, pas pour entendre parler d'épinards, je sais bien, mais bon. Je dérape toujours un peu. Ça, c'est un truc que je ne peux pas m'empêcher. Donc, mais là, j'ai une justification. Là. Le premier élément, si vous voulez, c'est que l'apport énergétique de la fonction mitochondrie est fondamental pour l'évolution du système nerveux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que votre système nerveux, qui fait 2% du poids, disons 1400 grammes pour un homme de 70 kilos, d'accord ? Ça fait en gros 2%, si je ne me trompe pas. Ouais, peut-être. C'est 20%, quelqu'un va calculer. Ça fait 20% quand même de l'énergie. C'est-à-dire que vous avez 2%, c'est le cerveau, mais il consomme 10 fois plus que sa part. D'accord ? Maintenant, si vous constatez que le système nerveux, c'est quelque chose qui est fait pour bouger, d'accord ? Qui est fait pour bouger. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas moteur et sensoriel est inutile, d'une certaine façon. Hein, et que vous regardez... J'ai dû faire un petit schéma là-dessus, quelque part. Voilà. Si vous regardez ici la taille du cerveau par rapport au poids du corps, voilà le paniscus, voici pan troglodytes, voici ici le gorille. Donc on est sur une ligne, hein, même chez les grands primates, on est sur une ligne. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe chez Sapiens ? C'est que le poids de son cerveau est disproportionné par rapport à la taille de son corps. Donc, d'une certaine façon, nous avons 900 cm3 de trop par rapport à ce dont on aurait besoin. Mais, pour bouger, bon, c'est ça qui nous transforme en sapiens, quoi, hein. C'est de là que viennent les fonctions cognitives. Mais ces 900 cm3 de trop, vous devez comprendre qu'il y a un coût énergétique énorme. Hein. C'est très très fort. Donc, la mitochondrie est extraordinairement importante, et les gènes qui ont été le plus modifiés quand on est passé du singe à l'homme, plus de l'ancêtre que nous partageons, etc., je vais vite, eh bien, sont des gènes de la nutrition et sont des gènes du métabolisme énergétique. D'accord ? Donc, la mitochondrie et la régulation de l'activité mitochondriale est un élément fondamental de l'apparition d'un cortex,
Hein, et encore plus d'un cortex de sapiens, puisque nous gâchons ces 900 cm3. Par rapport à ce dont on aurait besoin, on devrait être là. Hein, on devrait avoir un cerveau d'environ 400 cm3, en gros, si on était des singes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'ATP, ce n'est pas seulement de la fourniture d'énergie. L'ATP est aussi un des premiers modulateurs, un premier neurotransmetteur. Hein, donc en fait, l'ATP, qui peut être sécrété par les cellules, se fixe sur des récepteurs purinergiques. Et donc la mitochondrie participe à la physiologie nerveuse au sens propre. L'ATP peut réguler la migration des cellules, la migration des cônes de croissance, on n'en parlera pas, mais peut-être l'année prochaine, mais elle peut aussi, en se fixant sur les récepteurs purinergiques, il y a toute une famille de récepteurs purinergiques, réguler la transmission synaptique. Donc la mitochondrie n'a pas uniquement une fonction de fournir de l'énergie au système, elle a d'autres fonctions qui sont des fonctions qui sont très très liées à ce qu'est un système nerveux fonctionnel. Hein. Donc je vous demande de garder ça en tête parce que c'est quelque chose sur lequel je retournerai plus tard. Et maintenant que j'ai justifié mon dérapage mitochondrial et prokaryotique, je reviens une seconde sur cette histoire de transfert entre organelles et noyaux, hein, qui s'est produit il y a environ 1 milliard d'années. Hein. Donc, c'est un choc. Quand je suis un gène de chloroplaste, après tout, pourquoi pas, ou un gène de mitochondrie, que j'arrive dans le noyau, c'est un choc culturel. Je n'ai pas les séquences qu'il faut pour être transcrit, je n'ai pas les séquences qu'il faut pour être traduit. Et puis, en plus, je dois quand même retourner à la mitochondrie. Parce que ce n'est pas tout de donner mes gènes au noyau, il faut que le noyau me les rende pour que je puisse construire la mitochondrie. Donc ça veut dire qu'au cours de l'évolution, vous avez dû dégager, inventer, vous insérer dans des séquences qui permettent de donner les éléments de régulation au niveau de la transcription en particulier du gène, bien entendu. Et puis, vous devez avoir ajouté des séquences qui permettent d'importer la protéine dans la cellule. Donc, il faut une adaptation du système pour que le noyau soit capable, après avoir bouffé de l'ADN de la mitochondrie, renvoyé à la mitochondrie ou au chloroplaste, bien entendu, puisqu'il est hors de question de négliger les plantes. Alors, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est très intéressant parce que il faut un petit peu réfléchir à la façon dont ça a pu se développer de façon fonctionnelle, si vous voulez, et en quoi ça pourrait encore avoir des. Alors, vous voyez ici, en plus, vous avez un noyau qui fait du messager. Ils sont traduits par des systèmes de traduction des eucaryotes, c'est-à-dire que les ribosomes qui font 80, etc. Vous êtes importé. Et puis ici, vous avez évidemment une partie du génome, chez la bactérie, il y a environ 13 gènes, qui sont transcrits et traduits selon des processus prokaryotes. Donc c'est vraiment une chimère que vous avez là. Hein, et puis tout ça, ça doit interagir dans la mitochondrie, dans le chloroplaste, pour faire une bestiole qui est capable de nous apporter l'énergie, mais aussi d'autres choses, comme je viens d'en parler. Donc c'est intéressant. Et la question, c'est est-ce que ça peut toujours se passer comme ça? Hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'hérédité maternelle. Hein, n'oubliez pas que les mitochondries, c'est apporté par le cytoplasme de la mère. Est-ce qu'on peut encore imaginer des interactions évolutives, si vous voulez, entre un organelle, une organelle, et un noyau? Donc, alors, chez les plantes, il y a des manips qu'on répète qui sont tout à fait intéressantes, et je vais vous les donner tout de suite. Hein. Ils ont pris deux gènes de résistance, hein, c'est toujours dans cette revue, donc je ne sais plus qui est indiqué ici, la Reconstruction Evolution, Reconstructing Evolution, hein, qui est celle-là. Donc ils ont pris, j'ai presque fini, ils ont pris donc un gène de résistance à la spectinomycine, qui est un antibiotique, et un gène de résistance à la kanamycine, qu'ils ont introduit dans des chloroplastes. Hein, donc des chloroplastes qui ont des gènes de résistance. Seulement dans un cas, le gène de résistance a les séquences de régulation de type chloroplastique, donc il peut s'exprimer. Et dans l'autre cas, ils ont mis des séquences de régulation qui sont eucaryotes et qui ne peuvent pas s'exprimer comme dans le chloroplaste. Et puis, ils ont pris les pollens de ces plantes, ils ont fécondé d'autres plantes, ils ont fait pousser dans des milieux qui sont en présence de spectinomycine ou en présence de kanamycine. Donc, en présence de spectinomycine, il n'y avait pas de problème, les cellules étaient résistantes, puisqu'il y a tout dans le chloroplaste pour exprimer un gène de chloroplaste. Comme il n'y a pas dans le chloroplaste ce qu'il faut pour exprimer un gène eucaryote, les plantes sont évidemment pas résistantes à la kanamycine, sauf qu'elles le deviennent. C'est-à-dire que vous avez une plante sur 16 000 qui développe une résistance à la canamycine. Ça veut dire qu'une fois sur 16 000, le gène a été capable d'être transféré au noyau, de s'être inséré dans le noyau de façon correcte, pour être exprimé et conférer au pollen, ou plutôt à la plante qui va naître du pollen, la capacité de résister à la canamycine. Et ça, ça veut dire que le transfert entre la mitochondrie et le noyau est quelque chose qui peut toujours se produire. D'accord ? Voilà, donc je vous laisse tirer vous-même les conséquences. Je trouve ça, non, il n'y a que 13 gènes dans la mitochondrie, donc il n'y a que 13 gènes, mais c'est beaucoup d'ADN. Donc quand la mitochondrie éclate, ou quand le chloroplaste éclate, on peut imaginer qu'il se passe des choses entre cet ADN qui est déversé par la mitochondrie et le noyau qui serait capable éventuellement d'être transformé d'une certaine façon par l'ADN mitochondrial. Donc, je vais donc arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est 17h59, et j'ai presque rattrapé le retard, c'est pour ça que j'étais un petit peu foncé, vous ne m'en voudrez pas, mais je suis prêt à répondre à vos questions.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.